Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis, session 16 sur 19. Alors, je suis très heureux que vous soyez encore là. Nous sommes à la 16e session et vous êtes toujours là, ce qui prouve que vous avez soif de connaître ce que Dieu a pour nous encore aujourd'hui. Vous serez bénis, Dieu va vous donner la double portion. Alors encore une fois, nous allons utiliser la Bible pour cette session-ci. Et le thème, je pourrais dire le thème principal de cet enseignement, sera sur l'onction et sur l'expiation, parce que la guérison est incluse dans l'expiation que le Seigneur Jésus a accomplie à la croix du calvaire. Alors, nous allons parler de l'onction premièrement. Et allons dans le premier épître de Jean, chapitre 2. Lorsque Jésus a parlé du jugement, il a mentionné que, en ce jour-là, plusieurs viendraient à lui. Et qu'il lui dirait, « Seigneur, Seigneur, nous avons fait cela en ton nom. » Et Jésus leur dira, « Quittez, allez au loin, je ne vous connais pas. » Il ne leur dira pas que vous n'avez pas accompli ces œuvres-là, guérison et autres. Et alors, ils ont bel et bien accompli des œuvres puissantes au nom de Dieu. Mais ils les ont accomplies sans connaître le Seigneur. Alors, nous croyons que cela est impossible. Pourtant, c'est bel et bien possible. Parce que la puissance, devons comprendre que la puissance de Dieu fonctionne d'une manière très mécanique. Alors, il est évident que nous ne voulons pas être ce type de personne à qui le Seigneur va dire « Éloignez-vous de moi ». Alors, nous devons accomplir les œuvres de Dieu et les miracles et le connaître. Vous n'avez pas à choisir entre connaître Dieu et accomplir des œuvres puissantes. Vous devriez connaître Dieu et accomplir les œuvres puissantes. Mais juste pour vous démontrer davantage ce point, alors ce n'est pas parce que quelqu'un accomplit des miracles que cela insinue qu'il ne connaisse pas Dieu. Alors, c'est évident. Alors, il ne faut pas bâtir notre foi sur un homme au point que nous n'analysons plus ce qu'il dit. Vous devriez toujours analyser ce que les gens disent et vérifier dans la Bible. Je ne suis pas différent des autres. Vous devriez entendre ce que je dis, aller à la maison, étudier et vérifier si ce que j'enseigne est selon la Bible. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Pour démontrer à quel point la puissance de Dieu est mécanique. Alors, si je vous demandais, est-ce que Moïse connaissait Dieu? Vous allez dire, oui, bien sûr. Mais souvenez-vous, Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher et que l'eau s'écoulerait du rocher. Il l'a fait, cela a fonctionné. Et par la suite, les gens critiquaient beaucoup Moïse. Et Moïse était choqué après le peuple parce qu'il voulait bénéficier des bénédictions de Dieu, mais ne voulait pas de Dieu lui-même. Il était fâché, en colère, contre les gens. Et au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et lorsqu'il l'a frappé, pourtant ce n'était pas du tout la manière que Dieu lui avait dit d'agir, cependant, l'eau est sortie du rocher. Il a frappé le rocher et l'eau s'est écoulée du rocher. Alors, c'était un miracle. Et Dieu lui a dit, « À cause de cela, parce que tu m'as désobéi, tu n'entreras pas dans le pays promis. » Même si le miracle avait eu lieu et Moïse a agi en colère et de la mauvaise manière, et cela lui a coûté cher. Pourtant, l'eau s'est écoulée du rocher. Alors, selon notre théologie traditionnelle, nous dirions que si vous n'agissez pas de la bonne manière, ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de miracle. Mais Moïse a prouvé que cela n'était pas vrai. Parce que, en quelque sorte, la puissance de Dieu a un aspect mécanique. La puissance de Dieu œuvre selon, en accord avec certains principes. Et le fait qu'une personne puisse saisir et mettre en action ces principes divins ne veut pas nécessairement dire que cette personne connaît Dieu. Alors, il est très important d'écouter ce que les gens vous disent et de vérifier, selon la Bible, ce qui est vrai de ce qui est faux. J'aimerais vous donner un autre exemple. Dans la Genèse, au chapitre 27, nous avons l'histoire de la bénédiction de Jacob et Ésaü. Et pourtant, nous savons tous que le Père a béni la mauvaise personne, n'est-ce pas? Il était aveugle, il ne pouvait plus voir, et Jacob était rusé, alors il a mis du poil sur ses bras, et la mauvaise personne a reçu la bénédiction. Et lorsqu'Ésaü est venu, alors il a dit à son père, « Alors je suis ici, bénis-moi. » Mais Isaac a dit, « Il est trop tard. J'ai déjà donné la bénédiction. Je n'ai plus d'autre bénédiction pour toi. » Alors nous penserions que puisque Jacob a utilisé la ruse et la fraude, que la bénédiction serait inefficace. Alors nous croirions que Dieu se réserve le droit de canceller cette bénédiction, de la transformer, afin que la bonne personne, celle qui avait le droit d'aînesse légitime, soit bénie. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors la bénédiction avait aussi cet aspect, on peut dire, mécanique, que lorsqu'elle était prononcée, on ne pouvait plus revenir en arrière. Alors, c'est une seconde preuve de cet aspect mécanique de la puissance de Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, nous avons le récit de l'arche de l'Alliance qui est ramenée dans la cité de David. Et Dieu avait bien dit, quiconque va toucher à l'arche va mourir. Lorsque Dieu a décrété cela, c'est devenu une loi. Et la puissance de Dieu était présente pour accomplir cette loi-là. Et alors que le peuple ramenait l'arche, elle était dans un chariot tiré par des bœufs et l'arche a commencé à bouger. Et il y avait là un homme du nom de Uzza qui était rempli de bonnes intentions et qui a étendu la main pour retenir l'arche afin qu'elle ne tombe pas. Il n'essayait pas de faire de mal. En fait, il essayait de faire quelque chose de bien. Mais lorsqu'il a touché l'arche, il est mort. Alors, c'est encore un exemple de cet aspect mécanique du pouvoir de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6, nous avons l'histoire des étudiants du prophète Élie. Essayait de construire une maison. Et l'un d'eux avait emprunté une hache, et alors qu'il bûchait, l'arche est tombée dans l'eau. La hache, c'est-à-dire. La hache est tombée dans l'eau. Alors il est allé vers le prophète, et il lui a dit, bon, c'est une hache empruntée, etc. Le prophète n'a pas prié, il n'a rien dit, il est allé vers l'eau, il a pris un morceau de bois. Il a frappé sur l'eau et le fer de la hache a flotté. Et la personne a repris la taille de la hache et continuait à travailler. Ce jeune homme avait compris que le prophète avait l'autorité de faire flotter le fer de la hache. Alors il est allé vers lui. Le prophète n'a pas prié, n'a pas demandé à Dieu. Notre instinct naturel aujourd'hui serait de dire, alors là, ici, il est question de semer et de récolter. Alors, tu n'as pas été assez prudent, tu as mal travaillé et tu as perdu le fer de ta hache. Donc, ce serait notre attitude, souvent. Mais ce n'est pas ce que le prophète a dit. Il est allé, il a frappé l'eau et il a accompli un miracle. Alors cela aussi est un exemple du pouvoir mécanique de Dieu. Un autre exemple est dans le ministère de Jésus. Alors c'est cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis longtemps. Et n'oublions pas que Jésus était la manifestation de Dieu sur cette terre. Lorsqu'elle l'a touché, elle a reçu sa guérison. Jésus a ressenti qu'une puissance était sortie de lui. Mais il s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Il ne savait pas qu'il l'avait touché. Alors elle est venue à Jésus pour lui avouer. Alors Jésus n'a même pas eu à confirmer cette guérison-là. C'est la foi de cette femme qui a finalement retiré la guérison de Jésus. Cela démontre que notre foi en Dieu peut activer cet aspect mécanique de la puissance de Dieu. La raison pour laquelle nous avons peine à croire cela, c'est que nous avons de la peine à croire la position dans laquelle Dieu nous a placés en lui. Et nous nous percevons souvent comme tous les autres gens que nous côtoyons dans la rue. Et c'est pourquoi nous sommes là sans cesse à mendier auprès de Dieu les choses qu'il nous a déjà accordées. Alors mon but ce matin est de vous démontrer que Dieu nous donne la possibilité de prendre des décisions. Si vous croyez toujours cette ancienne façon de faire, cette ancienne théologie, mais qui est toujours actuelle aujourd'hui, alors vous ne pouvez pas croire certains versets de la Bible. Jésus a dit que vous pouvez demander ce que vous voudrez et que cela vous sera accordé. Et beaucoup de gens ont de la peine à croire ce que Jésus a dit. Alors ils vont vers Dieu et lui demandent, qu'est-ce que je pourrais bien prier, Seigneur? Il est clair que Jésus a dit, si nous vivons en lui, si nous sommes en lui, si nous demeurons en lui, et que si sa parole demeure en nous, vous pouvez demander ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et si vous croyez de l'ancienne manière, alors comme j'ai dit, vous êtes comme les gens de la rue. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour mendier auprès de Dieu. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne sont pas sauvés, qui ont beaucoup de problèmes. Et lorsqu'ils prennent conscience de leur situation, même s'ils ne sont pas sauvés, ils vont commencer à mendier auprès de Dieu, même s'ils ne sont pas sauvés. Mais cela ne devrait pas être la manière d'agir d'un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire là qu'il n'y a pas des temps où nous devons réellement s'humilier devant Dieu et le supplier. Mais vous ne verrez jamais dans le Nouveau Testament, évidemment, ni dans la vie de Jésus, de voir le Seigneur commencer à mendier auprès du Père pour recevoir les choses qui étaient nécessaires et les guérisons. Alors, si vous saisissez bien ce que j'essaie de vous dire là, alors la lumière va se faire et vous allez avoir une nouvelle compréhension de plusieurs versets de la parole, qui nous démontre que nous ne sommes pas un groupe de mendiants qui essayons tant bien que mal de faire en sorte que Dieu va avoir envie de nous aider. Et c'est à ce moment-là que la lumière va se faire sur les passages qui affirment que nous sommes co-ouvriers avec Dieu, qui affirment que Jésus nous a placés dans une position d'autorité en lui. Et que c'est notre travail, notre responsabilité, que sa volonté puisse être accompli sur cette terre. Et lorsque vous commencez à marcher dans ce niveau d'autorité, il est évident que les gens religieux vont s'opposer à vous. Mais ceux qui sont perdus, les gens blessés, détruits, les gens qui sont malades, eux vont vous aimer parce qu'ils vont aimer Jésus. Et même au temps de Jésus, c'était la même dynamique. On appelait Jésus l'ami des pécheurs. C'était les gens religieux qui l'haïssaient. Nous devons prendre conscience que nous sommes ici sur terre comme des vaisseaux, comme des canaux à travers lesquels Dieu manifeste sa puissance. Et nous pouvons comprendre que pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui n'ont aucun intérêt à aimer Dieu, à vouloir le connaître. Nous pouvons comprendre que pour ces gens-là, il n'y a pas de réponse à leurs prières et que le ciel soit comme un ciel d'airain au-dessus de leur tête parce qu'ils n'aiment pas Dieu et qu'ils n'ont aucun intérêt en lui. Mais pour un enfant de Dieu, il n'est pas normal que nous ne recevions pas les réponses à ce que nous demandons. Parce que la Bible dit même que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et qu'en plus, nous sommes ses représentants sur terre. Et parce que nous avons une citoyenneté céleste, vous pouvez déclarer la volonté de Dieu sur la terre. Et malgré le fait que les gens que nous côtoyons et qui n'ont aucune relation avec Dieu n'ont aucun droit légal de recevoir quoi que ce soit venant du ciel, nous, à cause de notre position en Dieu et à cause de ce que Jésus-Christ a accompli, nous avons l'autorité et le privilège de pouvoir, en leur faveur, récolter les bénédictions célestes. Et c'est à ce moment-là que nous devenons des canaux à travers lesquels Dieu peut se manifester à un monde perdu. Et ce sont eux qui reçoivent le bénéfice de ma position en Jésus-Christ. Vous dites, je ne crois pas cela. Et je vous dis, cette vérité est même présente dans l'Ancien Testament. Dieu a épargné la vie de Lot, non pas à cause que Lot, de la relation que Lot avait avec Dieu, mais à cause de la relation que Abraham avait avec Dieu. Et Dieu n'aurait pas pu détruire Sodome jusqu'à ce que Lot sorte de cette ville. Et même Dieu, avant cette destruction, s'est dit à lui-même, est-ce que je n'accomplirai pas quelque chose sans auparavant en parler avec mon ami Abraham? Et pourtant, Abraham était un prophète de l'Ancien Testament. Il n'était même pas comme nous une nouvelle créature de l'Ancien, du Nouveau Testament. Ses péchés étaient seulement couverts. Ils n'étaient pas enlevés, comme les nôtres. Ses péchés étaient toujours là. Cependant, il avait une relation avec Dieu. Alors, combien plus notre relation avec Dieu peut être authentique? Et combien plus nous pouvons aider tous ceux et celles qui ne sont pas en alliance avec Dieu, ceux qui ne croient pas en lui encore? Mais si nous croyons que nous n'avons pas ce privilège et cette position en Dieu, alors comment pourrions-nous croire que nous serons utilisés par Dieu, nous serons un canal de Dieu pour toucher les gens qui n'ont pas cette relation avec lui? La parole de Dieu que nous affirme que nous possédons une nouvelle alliance avec de meilleures promesses. Mais pourtant, la plupart de les chrétiens agissent comme si c'était mieux sous l'ancienne alliance. Et ils continuent d'affirmer qu'ils sont sous la nouvelle alliance. Plusieurs d'entre vous possédez un ordinateur et tout le monde sait que les programmes d'exploitation ont beaucoup évolué. Mais est-ce que vous préféreriez retourner derrière et utiliser les anciens programmes de Windows 2? Non, bien sûr. Alors pourquoi ne pas retourner derrière? Parce que c'est périmé. Cela ne pourra pas accomplir ce que vous désirez faire avec votre ordinateur. Et cela ne répondra pas aux besoins que vous avez. Et c'est pourquoi l'ancienne alliance a été mise de côté. Si vous lisez l'Épître aux Galates et aux Hébreux, il est dit que l'ancienne alliance est périmée. Elle est ancienne et ne peut pas répondre aux besoins de l'humanité. Et il est temps maintenant d'évoluer avec nos programmes d'ordinateur et d'évoluer aussi dans notre foi et de passer de l'ancienne alliance vers la nouvelle afin que les applications puissent fonctionner. Alors, comme je disais au début, nous allons aller dans la première épître de Jean au chapitre 2. Alors, nous commençons la lecture à partir du verset 27 qui dit, Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. Alors, notons d'emblée, dès le départ, que c'est au temps passé, Donc, l'onction est quelque chose que nous avons reçu, non pas quelque chose à venir, et nous le recevons de lui, c'est-à-dire du Seigneur. Et la Bible dit que nous avons reçu de sa plénitude en parlant de Jésus. Alors, l'onction que nous avons reçue vient de lui, vient du Seigneur Jésus. Et nous avons reçu cette onction dans le passé. Alors, je ne suis pas ici pour vous donner ou vous transmettre une nouvelle onction. Je suis ici pour pouvoir déverrouiller l'onction qui est déjà en vous. Il ajoute. Alors, il ajoute pour vous l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Alors, demeure en vous. Est-ce que l'onction est quelque chose qui part et qui revient? Non. Alors, si l'onction demeure en nous, alors cela veut dire qu'il n'y a aucun moment où nous ne sommes pas loin. L'onction ne nous quitte pas, ce n'est pas une onction qui part et qui revient. Il est dit là, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alors, vous me dites, oui, mais il y a des temps où je ne ressens pas du tout l'onction. Et je vais vous donner une révélation ici. Dieu ne vous a jamais promis que vous alliez vous ressentir loin ou que vous alliez ressentir l'onction. Il n'y a pas de promesse à cet effet-là. Alors, croyez-vous que quelqu'un qui travaille comme policier est toujours en train de se questionner à savoir s'il ressent ou non son autorité? Non, ce sont des humains. Ils ont les mêmes émotions que vous et moi. Alors, peu importe leur émotion, ils peuvent à n'importe quel moment vous arrêter et vous donner une contravention. Ils peuvent être dans un état terrible de colère intérieure et pourtant vous arrêter et vous donner une contravention. Ou encore, ils peuvent être très heureux, très joyeux et vous arrêter et vous donner une contravention. Alors, peu importe leur état d'âme ou leurs émotions, le résultat est le même. Et je suis ici pour vous dire, et je veux même vous prouver à travers la Bible, que l'onction n'a aucune sensation qui est reliée, qui lui est reliée. Et j'ajouterais même qu'en temps normal, en général, vous ne pouvez pas ressentir l'onction. Alors, vous me dites, oui, mais qu'est-ce que je ressens de temps à autre? C'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Mais sachez ceci, l'onction, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et un esprit n'a pas nécessairement, n'a pas de sensation qui lui est affiliée. Et je vais vous le prouver à travers la parole de Dieu. Et vous avez besoin d'aller lire dans votre Bible. Alors, continuons notre lecture ici. Alors, poursuivons la lecture. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors là, vous allez me dire, ah bon, comme ça, j'ai pas besoin de personne pour m'enseigner, n'est-ce pas? Alors, pourquoi donc vous êtes venu ici pendant 5 jours pour m'entendre? Mais par contre, nous devons admettre que si je suis fidèle à la parole du Seigneur et si je vous enseigne vraiment la pure parole de Dieu, alors en quelque sorte, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne, n'est-ce pas? Et cela n'est pas ma responsabilité ou cela n'est pas de ma faute si vous essayez de placer vos yeux sur moi. Car je vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas quelqu'un de plus grand ou plus particulier que vous. Et comme vous, la seule bonne chose qui est en moi, c'est Jésus-Christ. Enlevez Jésus, alors je ne suis pas mieux que vous si vous êtes sans lui, mais avec lui. Et nous tous ensemble, avec lui, nous sommes un peuple à la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu, de ce grand Dieu, créateur de l'univers, de venir demeurer dans l'être humain. Voilà la gloire de Dieu. Si on regarde les soldats, ils ont des entraîneurs qui sont capables de prendre n'importe qui sur la rue. Et dans une courte période de temps, ils peuvent en faire des soldats accomplis. Alors cela n'est pas à la gloire du soldat, mais cela démontre à quel point l'entraîneur est efficace. Lorsque j'ai enseigné les arts martiaux dans le passé, mes étudiants ne perdaient jamais de combat. Ce qui veut dire que je pouvais prendre à peu près n'importe qui et faire d'eux des experts. Ce qui démontrait que oui, j'étais un bon entraîneur. Et ce qui faisait en sorte que plusieurs désiraient venir pour que je les entraîne. Et les gens qui venaient à moi avaient déjà dans leur pensée qu'ils pouvaient gagner toutes les batailles, comme mes autres étudiants. Et c'est seulement lorsque j'ai commencé à enseigner les chrétiens que mes étudiants avaient comme attente l'échec. Et depuis cette époque-là, j'essaie de les emmener à une autre manière de penser, qu'il est temps de gagner les combats, n'est-ce pas? Alors, gloire soit rendue en Dieu qui me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors, nous disons que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Et c'est ce que Jean nous dit dans son épître. Alors, il nous dit, l'onction que nous avons nous enseigne toutes choses. L'Esprit, c'est l'onction. L'onction ne peut être séparée du Saint-Esprit. Alors, retournons au verset 20. L'apôtre Jean nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous avons le même mot ici, l'onction. Et il ajoute, et vous avez tous de la connaissance. Et même il y a d'autres versions où il est écrit, vous connaissez toutes choses. Et là, vous vous dites, non, non, je ne connais pas toutes choses. Alors peut-être que vous ne le réalisez pas actuellement, mais vous avez l'Esprit Saint en vous, et l'Esprit Saint connaît toutes choses. Et parce qu'il est en vous, vous connaissez toutes choses. Alors peut-être que vous avez besoin de déverrouiller ces connaissances pour, afin que vous puissiez le réaliser. Et c'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que nous pratiquons à travers ces séminaires que j'enseigne. Alors, si la Bible dit que nous connaissons toutes choses, nous devons accepter ce que la Bible dit. Alors, cela va nous ramener à 1 Corinthiens 2,16, que je vous ai lu la première session, et où il est dit que nous avons la pensée de Christ. Alors, la parole est d'accord avec cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, alors nous allons même lire quelques versets avant le verset 17, et tout ce passage-là nous parle de Jésus-Christ. Et au verset 15, alors il est écrit, il est mort, au verset 15, il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est que jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain degré, nous permettons au Saint-Esprit de se manifester à travers nous et d'être vu à travers nous. C'est la même dynamique que si nous rencontrons quelqu'un que nous connaissions auparavant et qui est devenu chrétien. Alors, nous n'allons pas les voir de la même manière, nous n'allons pas continuellement nous remémorer ce qu'ils étaient avant, mais nous les verrons à la lumière de l'Évangile, nous verrons Christ dans ces personnes-là, ce qui est une manière différente de voir. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire ici, lorsqu'il exprime « nous ne connaissons plus personne selon la chair », etc. Et la Bible nous dit que comme il est, comme Jésus est, ainsi nous sommes dans ce monde, non pas dans le monde futur, comme il est maintenant, alors nous sommes maintenant dans ce monde. Et nous devons vivre comme il a vécu et laisser vivre Jésus à travers nous, dans le maintenant, afin que tout ce qui est en nous, toute l'ancienne nature qui est en nous, soit en quelque sorte englouti, envahi par la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous faisons cela, alors nous allons commencer à agir et à parler comme Jésus. Et vous n'êtes pas devenu quelqu'un qui a perdu sa personnalité, mais votre personne est devenue un reflet de Jésus-Christ qui habite en vous. Il émane de vous. Si par exemple vous passez sur la rue et vous voyez quelqu'un qui est assis là dans un bar, et le lendemain vous allez à l'église et vous voyez encore à nouveau cette personne qui est là dans l'église. Et ils sont là, les mains levées, et ils adorent Dieu. Et vous allez le regarder et vous allez dire, quel hypocrite! Et ils sont là à lever les mains vers le ciel. Et hier soir, il était là dans le bar en train de lever les mains vers un autre Dieu. Et vous croyez que ce sont des hypocrites. Et vous le percevez comme un hypocrite parce qu'il élève les mains vers Dieu. Si cette personne est vraiment née de nouveau, elle n'est pas hypocrite parce qu'elle lève les mains vers Dieu. Elle était plutôt hypocrite la veille d'aller dans le bar, parce que c'est la veille que cette personne n'agissait pas selon sa nouvelle nature en Jésus. Et c'est étrange aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans l'Église que nous avons tournées à l'envers. Et c'est pour ça que je dis souvent que si nous voulons accomplir les guérisons à la manière de la Bible, alors la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement de faire tout le contraire de ce que nous avons appris dans les dernières années dans l'Église. C'est un fait. Alors Jean ajoute au verset 17, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre traduction de la Bible a traduit ce verset par une nouvelle espèce d'être qui n'a jamais existé auparavant. Il ajoute, les choses anciennes sont passées. Voici. Et cela veut dire de bien être attentif et de prendre note. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Ce qu'il dit là, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons cette nouvelle création et tout ce que nous avons été avant cela est parti, n'est plus là. Et tout est nouveau. Et toutes ces nouvelles choses en moi sont de Dieu lui-même. Et j'ai été recréé à l'image de Jésus-Christ, dans l'esprit. Mais votre pensée a quand même besoin d'être régénérée. L'Esprit Saint ne peut pas connecter avec le monde extérieur. Il ne peut pas s'exprimer au monde extérieur sans passer par notre âme qui contrôle notre corps. Et jusqu'à ce que notre pensée soit régénérée, l'ancienne créature en nous essaie toujours d'être activée. Mais lorsque la pensée est régénérée selon cet homme nouveau et que notre pensée est régénérée de manière à ce qu'elle devienne conforme à la pensée de Jésus-Christ, alors l'Esprit de Dieu en moi peut s'exprimer librement à travers mon âme et à travers mon corps vers le monde extérieur. Et c'est de cette manière que le monde extérieur vont pouvoir voir Jésus en moi. Alors l'apôtre Jean ajoute au verset 18, Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il faut faire une pause ici. Nous devons bien saisir que notre tâche est de réconcilier les gens avec Dieu. Et la manière de faire est leur démontrer, leur dire comment Dieu est bon et tout ce qu'il a fait pour eux. Et non pas en plaçant l'emphase sur leurs mauvaises actions. Ne vous en faites pas, la plupart des gens connaissent bel et bien leurs problèmes beaucoup mieux que vous. Alors maintenant, nous allons lire un autre passage, Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38. Il est dit, alors que Pierre est en train de prêcher, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et la Bible dit que Jésus accomplissait ces choses parce que Dieu était avec lui. Alors, est-ce que Jésus était le Fils de Dieu, Dieu incarné?
Oui.
Mais la raison qu'il a accompli ses œuvres était en tant qu'homme parce que Dieu était avec lui. Alors, j'ai une question très simple à vous demander ici. Est-ce que Dieu est avec vous? Oui ou non? Alors, si vous répondez oui, cela signifie que vous pouvez accomplir ce que Jésus a accompli. Vous pouvez aller et faire le bien et guérir, donner la vie à tous ceux qui sont sous l'empire du diable, parce que Dieu est avec vous. Amen. Alors, on retourne maintenant au chapitre 1 des Actes des Apôtres, verset 8. Alors, le verset 8 dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, notez bien qu'il est dit que vous recevrez une puissance. Et le mot qui est utilisé ici pour puissance, dans le texte grec, le texte original, veut dire habileté. Alors, nous pourrions lire ceci, « Vous recevrez de l'habileté, du savoir-faire, une fois que le Saint-Esprit sera venu en vous. » Alors, combien d'entre vous ont reçu le Saint-Esprit? Alors, évidemment, vous l'avez reçu avant aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui serait un jour du futur. Alors, vous avez reçu le Saint-Esprit dans le passé. Alors, selon les Écritures, vous avez déjà reçu la puissance. Et vous avez l'habileté, la capacité. Mais vous dites, je ne ressens rien de ça. Alors, laissez-moi retourner vers la Bible. Parce que ce que nous devrions dire, alors, c'est, vous devriez recevoir une sensation de puissance une fois que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Alors, aimeriez-vous réécrire ce verset? Ou vous, si vous préférez croire ce qui est écrit présentement? Alors, si c'est le cas, vous devez croire que vous possédez cette puissance entièrement, que vous le ressentiez ou non. Il y a des temps où, lorsque je prie pour les gens, je ressens beaucoup l'onction de l'Esprit. Et il y a d'autres temps où je ne ressens absolument rien. Mais cependant, je sais que peu importe ce que je ressens, la puissance de Dieu est en action. Parce que j'ai appris à ignorer ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas, et plutôt croire ce que Dieu dit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été témoin de tellement de miracles. La puissance de Dieu n'a pas un sentiment ou une sensation qui lui est attachée. Et je vais vous le prouver. Allons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et lisons à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, arrêtons ici pour un moment. Premièrement, Jésus parle de celui qui croit, non pas ceux qui croient. Alors, vous dites, quelle est la différence? S'il était écrit « ceux qui croient », alors cela signifierait que l'Église, dans son ensemble, en tant que groupe d'individus, aurait la même puissance que Jésus avait, et à cause de cela, pourrait accomplir les mêmes œuvres. Mais ce n'est pas ce qui est écrit là. Il est écrit « celui qui croit ». Et cela signifie que chaque chrétien ou chrétienne a le plein pouvoir et toute l'autorité et peut accomplir les mêmes œuvres que Jésus a accomplies. Alors vous allez me dire, comment accomplir même des plus grandes tâches, des plus grandes œuvres que Jésus? C'est parce que l'ennemi a été complètement, à la croix du calvaire, dépouillé de toute son autorité. Alors la manière de bien saisir cela, c'est que l'ennemi, le diable, a de l'habileté et de l'autorité, avait des habiletés et des autorités, de l'autorité. Alors Jésus est venu et à la croix de Golgotha, il l'a dépouillé totalement de l'autorité. Il continue d'avoir certains pouvoirs et de l'habileté, et c'est la raison pour laquelle il peut encore aujourd'hui rendre des gens malades. Prenons l'exemple d'un voleur de banque, un cambrioleur. Avec son arme, il a une certaine habileté, mais n'a aucune autorité. N'est-ce pas? Alors, il y a eu un temps où Satan avait de l'habileté et de l'autorité. Jésus est venu, la Bible est claire à ce sujet-là, où il est dit que Jésus est venu et qu'il a anéanti toutes les œuvres du diable, il a détruit, il est venu pour détruire toutes les œuvres du diable et détruire toute son autorité. Alors, depuis la mort à la croix du Seigneur, l'ennemi n'a plus, ne possède plus aucune autorité. Tout ce qui lui reste, c'est certaines habiletés. Et Jésus et ses disciples, ce qui nous inclut, vous et moi, ont pleine autorité. L'autorité que nous possédons nous a été pleinement accordée par Jésus. Et c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ce pouvoir-là, c'est l'autorité. Lorsque vous naissez de nouveau, Jésus vous donne cette pleine autorité. Vous êtes fils et filles de Dieu. Parce que l'autorité vient avec cette position de fils et de fille. Et seulement avec cette autorité, vous pouvez beaucoup accomplir. Et il y a eu un temps où Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, verset 19. Il a dit, voici, je vous donne l'autorité sur toute l'habileté de l'ennemi. Et plus tard, Jésus a dit, dans Actes 1, 8, que vous recevrez une puissance qui peut être traduite par habileté, une fois que le Saint-Esprit sera venu en vous, parce que le Saint-Esprit est l'habileté. Alors maintenant, vous n'avez plus seulement l'autorité, mais vous avez aussi l'habileté, c'est-à-dire la capacité de Dieu et du Saint-Esprit en vous. Et c'est ce que nous allons approfondir dans les séances à venir. Mais pour le moment, je vous laisse aller pour une pause.